Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il est tombé dans une espèce de trou noir. Il a glissé dans le trou. Et la tête la première. Assommé. Plus qu'assommé. Il reste sans bouger dans le noir. Le noir. Inconnu. Puis, il se sent soulevé. Porté. Il n'est pas encore réveillé. Il est déposé sur quelque chose de mou, de la lumière forte qui passe devant ses paupières. Le réveil lui fait ouvrir les yeux. Il voit, sous fond noir, une flamme qui passe et repasse devant ses yeux. Il sursaute et dit, la lumière se retire et le fond noir revient. Puis, ébloui par la lumière. Il voit se pencher sur lui un visage d'un homme du coin qui a moustache et yeux noirs. Il porte un habit sale. Mais où suis-je? L'homme lui dit. Tu es en notre main. Nous sommes les adeptes de la déesse Goudou, la déesse du sang. Et s'il dit, comment vous connaissez notre langue? L'homme lui dit, j'étais étudiant dans votre pays. Mais en réalité, c'était pour initier ton peuple. Tu es notre prisonnier. Tu vas être sacrifié pour notre déesse. On va te faire une entaille au bras. On va te laisser te guider. Le sang ira à la terre où la déesse se trouve. Elle fertilise la terre comme ça.
Tu lui dis, c'est une blague?
Non, c'est la vérité.
Je ne veux pas être sacrifié. Et pourquoi, moi?
le midi. Parce que vous, vous venez des plantes de la déesse. On sait qui vous êtes. Regardez. Et si je penche et vois, dans la pièce, la vieille femme au chauffeur. Il lui dit, vous madame, que faites-vous là? Elle lui dit, je suis la prêtresse de cette déesse. Il lui dit, mais c'est impossible, vous êtes des nôtres. Elle lui dit, j'ai pris cette religion parce que c'est la vraie. Elle est près de la nature. Elle est naturelle et vraie. C'est pas comme la religion catholique qui est fasciste. Elle est près de la nature. Elle est naturelle et vraie. Pas comme cette religion catholique. Mais vous faites partie de cette religion. Vous avez fait partie de la religion catholique. Et puis cette nouvelle religion que vous avez prise, elle fait des sacrifices humains. Elle lui dit, oui, mais c'est pas la bonne cause. Il lui demande, quelle bonne cause? Elle dit, votre religion est écologique, contrairement à la vôtre. Et le sang nourrit la terre, qui nous nourrit. On la remercie de ce qu'elle nous donne, et on la soigne en se sacrifiant pour elle. Comme elle se sacrifie pour nous, nous devons nos ressources à la terre et on lui doit la vie. Donc on la lui donne. C'est la seule religion écologique au monde. Ils ont évié depuis 100 000 ans. Nos ancêtres étaient des singes près de la terre, de la nature. Pas comme nous. Voilà ce que m'a appris à la Sorbonne, cet homme, ce sage. Et notre religion est basée sur le sang, qui est le liquide le plus pur, le plus naturel au monde. On devrait en boire à tous nos repas. Il lui dit, et moi dans tout ça? Il lui dit, vous, vous êtes le sacrifié. Il lui dit, mais vous ne pouvez pas en prendre un autre? Il y a des tas de personnes sur Terre. Et puis mon sang est pollué à cause de la civilisation. Elle lui répond, ah bon. Et puis la déesse va vous purifier. Et vous faites partie d'un groupe qui prenait, volait des fruits de la nature pour les transformer. La nature, ce n'est pas bon du tout. Il faut vous purifier pour ça. Il lui demande, et pourquoi, quand? Elle lui dit, silence, détendez-vous. Nous ferons manger des piments pour vous rendre le sang plus chaud. Et qui voit qu'il a allongé et attaché avec des courroies de cuir. Il a allongé sur une espèce de matelas. On le laisse. Il voit que la pièce est petite et est éclairée par des torches. Dit, je suis dans le beau droit, à peine arrivé, et voilà, prisonnier d'une secte mystérieuse. C'est mieux que dans un film d'aventure, et ça a été plus vite. Mais qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, moi? Il est épuisé, l'air humide, la fatigue, l'endroit. Sommeil. Noir. Puis, il se réveille, se demande l'heure qu'il est. Il n'y a pas de fenêtre. Peut-être est-ce le jour? Où est-il? Dans les sous-sols? D'un temple, d'une secte religieuse qui vit au fond d'une forêt, dans un temple en ruine, plutôt dans le sous-sol d'un temple en ruine, au milieu de singes lubriques, et cette vieille folle Quelle idée a-t-il eu de la suivre ? La porte s'est ouverte et apparaît un jeune garçon dans les 15 ans. On ne sait pas vraiment avec ses gens. Et habillé en vêtements du pays, de blanc sale. Il a l'air gentil et délicat. Il a à la main un bol en terre, un grand bol. S'approche du lit, sourit à Alexis, se penche et lui met près de la bouche une chose en forme de limace rouge. Alexis, afin, ouvre la bouche. Le garçon la met, cette chose dans la bouche. Alexis, crache. Ça a brûlé le piment, la bouche. Il a craché la chose. Le jeune garçon sourit et sort de la pièce. Dit, on va pas me laisser seul comme ça, il faut qu'on me donne à manger. Le temps passe, il a de plus en plus faim. Je sais quoi faire. Ses membres commencent à lui faire mal. Et puis le piment lui a donné soif. Il commence à en avoir assez de cette farce. Il crie, au secours, j'ai soif, j'en ai marre, au secours. Après un moment de cri, il est épuisé et s'arrête. Le temps est long, fatigué, assoiffé, affamé. Il finit par s'endormir encore une fois. S'est réveillé, c'est la porte qui vient de s'ouvrir. Il voit, il ne sait pas combien de temps il a dormi, il est épuisé. Il voit apparaître le jeune garçon avec son grand bol de terre. Il approche de lui en souriant. Et celle-ci se dit qu'il va encore lui proposer de ses piments. L'enfant se penche vers lui. Et tend près de sa bouche quelque chose qui doit être un fruit. Parce que ça sent le sucre. Il sourit. Et ici, ouvre la bouche. Le garçon met la chose dans la bouche d'Alexis. Qui semble quelque chose de frais et de tendre. Il mange. C'est bon. C'est frais et sucré. Le garçon lui sourit. Après avoir mangé le fruit, il a donné de l'appétit à Alexis. Il ouvre la bouche pour qu'on lui donne la becquetée. L'enfant ou le jeune adolescent rit. Alexis sourit. Le jeune garçon lui tend un autre fruit, puis trois, etc. Alexis a très faim. Une fois, il a failli se mordre le doigt de l'enfant, ce qui les fait rire. Et l'enfant se retire. Alexis attend, attend des heures. Elle attend malgré lui la venue du garçon. Parce qu'il a faim, très faim. Et puis en plus, il aimerait enfin son ami, pas un geôlier. L'enfant revient après un long moment. Et lui sourit. Et Alexis lui sourit aussi. Et se penche et lui donne des fruits à manger. « Il fait, en montrant à Alexis le fruit, chut. Alexis comprend que l'enfant n'a pas le droit de donner des fruits et lui sourit. Il lui donne à manger. Le garçon, après lui avoir donné ce qu'il a, le regarde bien, de la tête aux pieds, avec curiosité. Alexis se dit que c'est peut-être la première fois qu'il voit un occidental, que peut-être il a toujours vécu dans ce trou noir. D'autres fois, le jeune garçon se permet de lui caresser les cheveux. Cheveux d'or d'Alexis, beaux et lumineux comme l'or du soleil. Alexis sent que l'enfant est envoûté par les cheveux et lui. Le temps passe, on ne peut pas dire, mais ni les heures ni le jour, parce qu'on ne sait pas. Alexis et ce garçon se comprennent sans se parler. Et sentent une certaine intimité ensemble. Le prêtre n'avait pas prévu ça, que le jeune garçon soit attiré par Alexis. Alexis prend des forces. Les fruits sont suffisamment nourrissants. Une fois, l'enfant vient tout excité vers Alexis. Il sort du bol un couteau. Un gros couteau de cuisine et fait des signes à Alexis pour lui montrer qu'ils vont bientôt le sacrifier. Alors, avec le couteau, il coupe les sangles de cuir. Alexis surpris, mais pas de l'amitié qu'a l'enfant pour lui. Une fois que les sangles sont coupées, l'enfant donne le couteau à Alexis. Il fait signe de se lever et de le suivre. Avant de sortir de la pièce, l'enfant sort de sa poche un couteau, fait signe à Alexis de se mettre derrière lui. Et il ouvre la porte. Il y a un garde juste derrière. Avant qu'il ne réagisse, il lui enfonce un couteau dans le ventre. Les gardes s'effondrent à terre. Vite! L'enfant court dans le couloir sombre, éclairé par des torches. Alexis le suit. Il monte des escaliers de pierre. Et tout en haut, il y a une porte. L'enfant l'ouvre. C'est un couloir, long couloir, éclairé par des torches. C'est pavé. Alexis suit l'enfant. Tout à coup, des pas. Et apparaissent un homme. Vite, l'enfant et Alexis se retirent. L'homme court après eux et crie « Ils courent, ils sont là, ils se sauvent !» Et d'autres hommes accourent autour d'eux. Et ici se dit « Nous sommes perdus !» L'enfant ouvre une porte, pousse Alexis à l'intérieur de la pièce. Les soldats se rapprochent. L'enfant, vite, va vers le mur. Il tourne une pierre. Ce qui fait pivoter le mur. Il se retrouve dans la jungle. Ici suit l'enfant. Il court. Il court. Et il se trouve dans les marais. Il continue à courir, à courir. Il y a eu un coup de feu. L'enfant est tombé la tête la première. Alexis le retient. Le tueur s'apprête à viser Alexis. Mais un tigre sauté sur lui. L'enfant est pris dans les bras d'Alexis qui court. Il court dans l'eau sale, boueuse, pleine de bêtes qu'il entend. On a dû arrêter de les poursuivre en se disant qu'ils allaient sûrement être tués et que la déesse allait tout de même, malgré tout, avoir son sacrifice. Puis, épuisé, il est obligé de s'arrêter et déposer l'enfant sur la berge. Il ne bouge presque plus. Il semble mourant. L'enfant, d'un geste, sort de sa chemise une petite boîte en métal blanche et la tend à Etsy en souriant. Puis, son visage reste fixe. Etsy, en pleurant, prend la boîte et la met dans sa poche. Il prend l'enfant dans ses bras et pleure le garçon. « M'a sauvé la vie. » Et par ma faute, il est mort. Pauvre petit. Il le caresse et l'embrasse. Pauvre petit être. Il reste un long moment comme ça, assis à bercer l'enfant. La nuit approche. Saute vers lui un tigre. Il sursaute, prend l'enfant dans ses bras et marche à reculons. Le tigre le suit. Et ici, ne sait que faire. Il recule. La bête est de plus en plus mauvaise. Il recule. Pour sauver votre vie, jetez le corps. Moi, je ne peux pas faire ça. Alors, vous allez mourir. Vous allez mourir alors.
Non.
Et Alexis, regarde les yeux de la bête. Il lance le corps. Jeune garçon dans l'eau et voit avec horreur la bête sauter sur le corps, mettre ses crocs dans la poitrine, le sang gicle. Fait un trou dans le cadavre. Il fait ça devant lui, sur la terre. Et le dévore. Alice effrayée, pris de remords, se met à crier. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Non, c'est moi. Il se retourne et voit une femme très belle, blonde, habillée d'une robe noire. Elle a à la main un revolver et sur un monticule de terre ferme. Et lui demande, qui êtes-vous? Elle lui dit, sortons d'ici. Il lui demande, comment? Elle lui dit, viens-nous, pas très loin. J'ai ma voiture, venez. Vous n'êtes pas loin. Il se souvient de la femme, l'autre, et lui demande, vous me menez où? Elle lui dit, à votre hôtel. Il n'y avait rien à craindre. Et puis, vous ne pouvez pas rester ici, non? Et il va vers elle, sort du marais. Il est près d'elle, se retourne et voit la bête déchiqueter le pauvre garçon. Elle lui dit, il ne peut plus rien pour lui, venez. Il demande, pourquoi? Il fait, il faut bien que quelqu'un vous aide. Il regarde bien, il lui dit, vous aviez une arme? Oui. Alors pourquoi n'avoir pas sauvé mon jeune compagnon? Il lui dit, j'ai essayé, c'est moi qui ai tiré sur le tueur, mais je ne peux pas tout faire. Et puis c'est vous que je dois sauver. Il lui demande, pourquoi? Elle lui dit, parce que il le faut bien. Non? Allez, quittons cet endroit malsain. Il la suit surpris. Elle lui fait suivre le marais et monter un haut talus.